Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios Ryan Zerouni. Qui est Ryan Zerouni? Vous allez le savoir bientôt puisque c'est un jeune humoriste prometteur de la scène marseillaise qui arrive avec son premier spectacle spécial, c'est le nom. Il a 6 ans de stand-up dans les pattes, il a écumé tous les plateaux de Marseille et d'ailleurs, il a fait rire des gens, il vous a sûrement fait rire un jour et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir dans nos studios pour parler de ce premier spectacle, ce nouveau début sur scène. Bonjour à toi Ryan.
Bonjour, bah, merci pour l'accueil, c'est super sympa.
Bah, c'est un grand plaisir de te recevoir. Je l'ai dit, tu arrives sur scène avec ce premier spectacle donc spécial que tu as déjà joué et que tu vas rejouer très bientôt. Déjà 6 ans de stand-up, donc félicitations, tu as tenu le coup. Il faut le rappeler, le stand-up, c'est un marathon, c'est compliqué et tu as tenu 6 ans. Est-ce que, pour commencer cette interview, déjà tu peux nous raconter ta première scène de stand-up?
Ah ouais, bah ma première scène, ce qui était spécial avec ma première scène, pour faire un petit jeu de mots avec mon...
On adore.
Avec mon nom de spectacle. Non, c'est que je devais monter sur scène. Il me restait une semaine avant de monter sur scène. Et je me suis cassé le bras.
Ah.
Et j'ai pas repoussé. Donc ma première scène, j'ai le plâtre. Okay. J'ai l'attelle qui me tient le plâtre. Et je suis sur scène. Et ma toute première blague, c'est je me suis fait mal en faisant rien du tout. Parce que je me suis cassé le bras durant la nuit en étant mal positionné.
Mais non, c'est
et
possible.
J'ai fait un mauvais geste. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait un mauvais geste et je me suis un peu cassé le coude et un peu débloqué, un peu, déboîté l'épaule.
En dormant. Ah, mais non, c'est...
J'étais
ah, oui,
vraiment
c'est
un sacré fragile.
Ah oui, c'est... vraiment génération woke à 100%.
Ouais, voilà,
ah oui, tu t'es cassé et le bras en dormant.
C'est ça. Et du coup, je monte sur scène, je fais cette première blague, les gens rigolent et après ça me met à l'aise. Et après, de là, t'es piqué et tu t'arrêtes pas pendant 6 ans.
Hein. Ouais, est-ce qu'au final, c'était pas une chance de se casser le bras ce jour-là?
Oui, parce que la première blague que j'avais prévue à ce moment-là, à la place du cassage de bras, je pense pas que ça...
Elle était beaucoup moins bien. Et du coup, justement, donc cette première scène, dès le début, tu as aimé ça? Ça a été piqué sur la première scène ou il a fallu un peu tenir?
La première m'a piqué, la deuxième m'a...
Brûlé.
Ouais, bah, m'a brûlé, par contre. La deuxième, la première, malheureusement, ça s'est trop bien passé. Mm-hmm. Ça se passe trop bien. Là, je sors de scène, je me dis, mais waouh, c'est incroyable, les gens me trouve drôle, donc je suis le meilleur. La deuxième scène, j'ai joué dans un pub et au premier rang, il y a un gars qui me vomit sur le pied.
Non.
Deuxième scène.
Ah oui.
Personne ne m'écoute, match de l'OM au-dessus de ma tête. Je fais une blague et j'attends la réaction des gens et les gens crient
« Ouais !»
parce que l'OM a marqué un but.
Non.
Et c'est comme ça que j'ai compris. J'ai fait « Ah ok, en fait, ça va être compliqué en Marseille. »
Ah ouais, donc ouais, donc t'as fait match de l'OM, spectacle de stand-up le même genre, c'était ambitieux quand même c'était de la part du programmateur d'envoyer des humoristes sur le même moment.
Ouais,
même.
À ce moment-là, le programmateur, il est venu, il a dit au public, hey, si vous voulez regarder le match, vous allez à l'autre côté du pub, il y a un autre écran, et vous allez là-bas. Et genre, tout le monde s'est levé, et tout le monde est parti. Et c'était une fan comedy club.
Ah oui, ça avait l'air d'être une sacrée soirée pour la deuxième.
Ouais.
Donc ouais, la première t'as piqué, la seconde t'as montré que ça allait être compliqué quand même.
Ouais, m'a vacciné. La deuxième, elle m'a vacciné directement.
Donc je dis, ça fait 6 ans aujourd'hui que tu joues et que tu es dans le monde du stand-up. Tu joues ce premier spectacle. Est-ce que, pourquoi déjà un spectacle alors que tu fais du stand-up régulièrement, il faut le dire, tu joues sur tous les plateaux de Marseille et ailleurs. Pourquoi l'envie de jouer plus longtemps en vérité?
Ben, au début, je n'avais pas cette envie-là. Je me disais que peut-être que j'étais un humoriste de comedy club qui allait juste faire des passages entre 8 et 10 minutes et qui allait se régaler. Mais après, j'ai compris que pour pouvoir poser des propos un peu plus intéressants, créer un peu plus de connexion, et c'est un peu mon stand-up, c'est ce que j'aime raconter sur scène, prendre mon temps, ben, en fait, il me fallait une heure. Il me fallait une heure avec mon public où je peux parler de tous les sujets dont j'ai envie de parler et de pouvoir bien les aborder et prendre le temps de bien les aborder en détail.
On va aborder justement ces sujets, mais avant toute chose, le titre de spectacle, c'est spécial.
C'est ça.
Déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi spécial?
Ah, c'est compliqué parce que spécial, ça a plusieurs connotations. Moi, je suis un grand fan de stand-up et souvent, les grandes stars de stand-up avec lesquelles j'ai grandi aux États-Unis, bah, elles ne disent pas « j'ai un spectacle », elles disent « j'ai un special ». Là, ça, et juste le kiff de se dire mon spectacle c'est un special, c'est mon kiff, c'est mon kiff perso. Ça, personne ne l'a compris ce double sens.
Oui, je pense que oui, je viens de le comprendre maintenant personnellement.
C'est que pour moi, mais il y a aussi un sens où je parle du fait d'être spécial et de ne pas l'être. Et il y a toute une histoire avec ma mère où elle me parlait d'un endroit spécial que je décris dans le spectacle. Et Et c'est pour ça que c'est important de venir voir pour bien comprendre. Wow. J'ai gardé ce mot, un mot simple, un peu énigmatique pour donner l'envie aux gens de venir. Mais je pense que les gens s'en foutent. Ils se disent juste, se croit spécial celui-là. Et voilà.
Tout non, ça. C'est bien parce que là, tu nous as dévoilé quelques éléments comme ça sans nous en dire trop. Donc vraiment, très bon marketing puisqu'on a envie d'aller découvrir dans le spectacle qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cet endroit. Les thèmes abordés, je ne vais pas te demander de tout divulgacher, mais est-ce que tu as un fil rouge qui tient ce spectacle? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message derrière que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que c'est?
C'est vraiment un public, pas du tout. un spectacle tout public. Parce que j'ai énormément de blagues qui parlent de ma famille, où les gens se sentent concernés par des situations, se reconnaissent en tout cas dans certaines situations. Donc je parle énormément de ma famille, je parle aussi de moi, de mon enfance, de mon rapport avec les animaux, tout ça, mes animaux que j'ai adoptés quand j'étais petit. Et je parle d'un heureux événement qui est tout frais, du fait que je me suis marié.
Oui, félicitations.
Merci. Et un peu du mélange culturel qu'il y a entre ma femme et moi.
Oui.
Parce que moi, je suis français d'origine algérienne et elle est française d'origine albanaise.
Et donc, on voit des problèmes arriver d'ici.
Exactement. déjà.
Oui, c'est un mélange d'étonnant. Le jour où vous allez avoir des enfants, il va falloir prévenir l'école.
Voilà, prévenir aussi l'État. Autant prévenir pas mal de monde.
Oui, donc c'est un mélange culturel assez détonnant, j'imagine, à la maison. Donc, femme d'origine albanaise et toi, d'origine algérienne. Tu parles beaucoup, justement, de ta famille dans tes passages, en tout cas, moi, que j'ai eu le plaisir de voir sur scène. C'est vrai que tu as toujours ce trait commun pour la famille. Justement, pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose d'universel dans le fait de parler de sa famille?
C'est hyper... Ben, je l'espère, mais presque tout le monde a une famille et se sent concerné par ce genre de sujet. Et en fait... on parle toujours de la famille, des bons côtés de la famille, et j'espère en tout cas pouvoir rigoler un peu des mauvais côtés de la famille et voir le bon côté dans ces mauvais côtés.
Et peut-être dissuader les gens d'avoir une famille.
Aussi.
je voulais savoir, parce que tu l'as dit, c'est ce premier spectacle pour toi, mais tu as participé en tant qu'auteur parce que tu écris beaucoup, tu es un des gros bosseurs du stand-up marseillais, tu co-écris pour des artistes, donc je pense notamment à Amy London, à Dalil, à Dudley Gossek, avec qui tu co-écris pour les aider à réaliser leur spectacle. C'est beaucoup d'artistes émergents qui sont en train d'arriver comme ça, de débouler sur la scène marseillaise et bientôt nationale. Toi, quand tu co-écris, qu'est-ce que c'est la différence avec quand tu as écrit pour toi? Est-ce que tu vois une différence ou pas?
Ah oui, clairement. Moi, quand je coécris avec quelqu'un, j'essaie vraiment de comprendre son univers, où il veut aller. Vraiment, je deviens un psy. À ce moment-là, j'ai compris que je devenais un psy et j'essaie vraiment de comprendre ses enjeux et on écrit dans sa direction. Je ne cherche pas à ramener à moi et vraiment, c'est là où il n'y a vraiment pas d'ego quand tu es co-auteur. Tu essaies vraiment de bosser pour la personne et de rien ramener à soi. J'essaie de ramener mon expertise, mon expérience un peu par rapport au stand-up. Ça fait 6 ans que j'en fais, je suis pas non plus... Mais j'ai connu quand même pas mal de choses et on a grandi dans le stand-up avec des cours de stand-up au tout début et on a appris pas mal de choses et du coup j'espère bien redistribuer ce savoir-là, en tout cas j'essaye.
Et ben justement, tu le dis, c'est écrire pour quelqu'un d'autre, c'est devenir son psy, c'est aller dans sa direction, c'est l'accompagner. Ouais. Et quand tu écris pour toi, est-ce que c'est plus difficile de devenir son propre psy et d'essayer de se comprendre? Est-ce que c'est plus facile de comprendre les autres ou soi-même?
C'est toujours plus dur de se comprendre soi-même, c'est ça qui est paradoxal. On est toute la journée avec soi-même, mais on ne sait pas qui on est.
Ouais, donc c'est là où la difficulté. Est-ce que tu as demandé aux artistes avec qui tu avais écrit de t'accompagner pour écrire justement ton spectacle ou tu l'as fait solo? Comment tu as composé ce spectacle?
Mon spectacle, je l'ai fait solo, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'amis qui m'ont pas mal conseillé à des moments. Mais c'est vrai que je ne co-écris pas avec d'autres personnes. Moi, j'écris seul, je bosse seul, je prends mon temps. J'ai pas envie de mettre de pression aussi d'écriture... avec d'autres personnes, tout ça. Je me mets déjà assez de pression seul. Mais c'est vrai que je bosse... Moi, je suis quand même un solitaire, de mon côté.
Donc, c'est une écriture solo. Et est-ce que tu as des rites, des manières de faire? Comment tu écris? Est-ce que tu dois être dans un endroit précis et dans des circonstances précises ou c'est un peu à l'endroit où tu es, à l'instant où tu es?
Sous la douche.
Sous la douche? Okay, donc, tu écris sous la douche. Ça ne va pas être pratique, mais tu écris sous la douche.
C'est vraiment sous la douche... En fait, je considère qu'on écrit lorsqu'on est très détendu. Je suis contre le fantasme de l'artiste qui est
torturé,
qui se torture l'esprit. C'est pas vrai. Moi, je pense que quand on est sous la douche, on a des bonnes idées. Au moment de s'endormir, on a des bonnes idées. Souvent, on se dit, ah, il faut vite que je note avant que je dorme, sinon je vais oublier le lendemain. Et si on note pas, on a oublié. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans des moments où on est très détendu. Et donc, je cherche toujours, en tout cas, à être détendu pour pouvoir écrire. Je ne recommande pas l'usage de drogue. C'est pas ça que je suis en train de dire.
C'est bien le premier dans ce studio à nous dire ça. Mais,
mais c'est vrai que ça aide énormément d'être détendu et de ne pas avoir de pression à ce niveau-là. Moi, je pars souvent d'une petite expérience personnelle que j'essaie d'étirer, de comprendre, de creuser et de raconter après de la meilleure manière possible selon mon prisme.
Ok. Et justement, alors, je l'ai dit, ça fait 6 ans maintenant que tu écumes les plateaux de stand-up. Si tu devais revoir le Ryan Zerouni des débuts, celui qui a commencé il y a 6 ans, quel conseil tu lui donnerais pour progresser, pour avancer dans le stand-up? Qu'est-ce que tu me dirais? Et si ce n'est pas Ryan Zerouni, imaginons un jeune stand-upper ou une jeune stand-upeuse qui commence aujourd'hui le stand-up.
Je dirais de ne pas se mettre de pression, même s'il s'en est pas pris. Il a pris son temps, hein, celui-là, pour sortir son spectacle au bout de 6 ans. Mais c'est bien. C'est bien de prendre son temps, de bien comprendre pourquoi il fait les choses. Si j'ai un message à donner à des jeunes stand-upers qui débutent, moi-même, je suis un jeune stand-upper.
Oui, bien sûr.
Vrai. Mais
on va dire que t'es un adolescent qui donne des conseils à des bébés.
Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais, prends ton temps, bosse, vraiment pense vraiment à ce que tu veux raconter sur scène, ce qui te tient à cœur. Ne vole pas de blagues, c'est très important. Ne vole pas les idées, même si c'est oui, mais un peu. Non, trouve par
toi-même. Ta singularité.
Trouve ta singularité et... le moment où tu te dis « Ah, j'ai pas d'idée, j'ai plus rien », c'est là où les meilleures idées vont arriver. Donc, sois content de la feuille blanche, parce que juste après, la feuille, elle va être magnifique.
C'est un message donc à tous les stand-upers et stand-upeuses qui sont en page blanche, c'est maintenant que tout va se passer. Justement, donc Ryan, on revient sur ce spectacle, tu as des inspirations, j'imagine, hein, tu le dis, tu es un grand passionné de stand-up puisque tu consommais du stand-up avant d'en faire. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a un humoriste ou une humoriste française ou français ou américain peut-être qui t'a guidé ou en tout cas qui t'a donné le chemin?
Ah, j'aime beaucoup en ce moment, je le recommande à tout le monde. C'est, là, je suis un peu le relou qui dit « Allez, regardez Adjib Al-Khalidé. » C'est vraiment... c'est québécois, donc c'est francophone. C'est trop fort. D'accord. C'est de la magie. Et quand tu le regardes, tu te dis « Ah, c'est ça. C'est ça, le vrai stand-up. Ouais. C'est ça que je veux faire. » Et c'est beau. Ça prend le temps sur scène. Et ça a des propos tellement puissants. On n'est pas à la recherche de rire. Tout le temps, toutes les secondes, là on met en place un propos, on en discute, c'est ultra intéressant et quand la blague tombe, là c'est une explosion.
Ah, donc c'est vraiment ce que tout humoriste rêve de faire, d'être à la fois intéressant et drôle.
Exactement.
Ouais, le classique. Donc on parle d'inspiration, pour toi aussi, donc voilà, Ryan, on va quand même parler de scène et du plaisir que tu prends. C'est quoi tes clés, comment tu fais pour connecter avec les gens? Parce que j'en parle tout le temps ici sur Fréquence Mistral, la connexion avec le public, elle peut être incroyable comme elle peut être incroyablement horrible. C'est-à-dire que pour qu'il se passe de la magie sur scène, il faut que les gens ils puissent connecter avec l'humoriste sur scène. Toi, c'est comment tu connectes? Est-ce que tu as une manière de le faire ou est-ce que c'est inconscient à chaque fois?
J'ai longtemps connecté inconsciemment et en fait j'ai juste essayé de me mettre à la place du public. Quelle image je renvoie, et consciemment ou inconsciemment, les deux premières secondes où tu arrives sur scène, les gens te jugent et essaient de comprendre qui t'es. Et si tu arrives déjà avec un grand sourire, des regards amicaux et une bonne blague, en fait les gens vont t'aimer. Personne vient à un comedy club bras croisés et se dit le premier qui va monter sur scène, lui, je vais le détester quoi qu'il arrive. Donc, si tu arrives, tu souris, ça se passe bien, tu arrives avec des bonnes blagues et une bonne confiance en soi et ça devrait aller.
Oui, c'est dans les pubs où il y a le match de l'OM en fond que les gens ils se disent ça, c'est pas dans les comédies clubs. Voilà. Effectivement. Donc justement, Ryan, tu l'as vu, je pense, puisque sur les 6 ans où tu as commencé, depuis l'époque où tu as commencé le stand-up à Marseille, le stand-up a explosé. Aujourd'hui, on a plusieurs comédies clubs récurrents où on peut voir du stand-up tous les jours, ou en tout cas une grande partie de la semaine. On a des plateaux de partout. Aujourd'hui, ça ouvre à Toulon, à Montpellier, donc tout le sud de la France est en train de voir vraiment un tissu qui est en train de se créer. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité à l'humour du sud et une spécificité à l'humour de Marseille en particulier?
Je pense qu'il y a des personnages dans le stand-up qui parlent plus dans le sud, mais l'humour, en vrai, on peut trouver des similarités. En fait. Si on a effectivement un personnage avec l'accent marseillais, mais les Marseillais, ça va vraiment les faire rire, quoi. Mmh. Mais ça va faire rire aussi d'autres personnes. Les autres aussi aiment l'accent marseillais. C'est juste que les références qu'on va utiliser, est-ce que je fais une blague sur Malmousque ? Mais est-ce que tout le monde connaît Malmousque ? Ouais. Si je fais une plage, je parle de la plage du Prado, est-ce que tout le monde connaît la plage du Prado ? Je pense que c'est juste des références qu'il faudra réadapter selon les villes, selon les endroits où on joue. Mais en vrai, je pense que l'humour est assez universel. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai pas de blague qui fonctionne que dans un seul type d'endroit. J'essaie vraiment de parler à tout le monde et même pas qu'un seul type de public. Je peux parler à des gens qui sont plus âgés, des jeunes. Comme je dis, je parle de ma famille pas mal. Du coup, si tu te reconnais pas au papa, tu vas te reconnaître avec l'enfant dans cette histoire-là.
Ou avec le frère qui a un problème de susceptibilité.
Mon grand frère.
Je divulgage rien, mais.
Non, c'est vrai que mon grand frère est très susceptible.
Ouais.
Mais on l'est tous dans ma famille.
Oui, apparemment. Ouais. C'est pour ça que je ne veux pas trop gratter parce que je n'ai pas envie de t'énerver pendant cette interview. Justement,
sinon, je pars.
je sais, à tout moment, l'interview peut se clôturer, sachez-le. Ouais, c'est un interview avec un franco-algérien. C'est toujours la même chose. Donc, on a parlé de ta routine d'écriture et je voulais parler quand même de ta routine à toi en tant qu'humoriste parce qu'on en a parlé un petit peu en off là.
Ouais.
C'est quoi la journée type pour toi, pour une bonne journée type pour un humoriste?
Alors, réveil très tôt, 15h30, 15h.
Là, il y a tout le monde qui dit les intermittents du spectacle. Et voilà,
c'est nos argents, ça. C'est notre argent, ça.
On aurait dû les mettre dans les champs de patates depuis le temps. Donc, réveil tôt à 15h30.
Non, en vrai, je me lève quand même toujours, je me dis maximum 10h, quoi. Je note constamment. En fait, un humoriste ne s'arrête jamais de travailler.
C'est vrai, ça.
Un humoriste ne s'arrête jamais de travailler parce que... Et malheureusement, on ne décroche jamais. Toute la journée, on a nos yeux d'humoriste qui observent et qui essaient de noter tout ce qui peut se transformer en rire pour le public. Du coup, on est vraiment au travail H24. Donc, laissez-moi me réveiller à 10h, quoi.
En fait, est-ce que tu ne serais pas un de ceux qui travaillent le plus en France actuellement?
Oui, je pense que mon taux horaire est minable, en fait.
Oui. Ah, c'est bien. On dénonce ici dans cette interview.
Augmentez-moi.
Donc, on en a parlé. On a parlé justement des nouveaux lieux à Marseille. Est-ce qu'il y a des lieux que tu affectionnes particulièrement pour jouer, toi?
Le lieu où je fais mon spectacle, quand même.
Et on va en parler. Donc,
on crache pas dans la soupe. Hein.
Le Garage Comédie, c'est là où tu as commencé. C'est avec eux que tu as commencé aussi le stand-up, si je ne me trompe pas.
Exactement. Les fondateurs du Garage Comedy Club, c'est ceux avec qui on a commencé le stand-up il y a 6 ans. Et du coup, moi, je fais partie aussi de l'équipe fondatrice du Garage Comedy Club. J'allais dire du Jamel Comedy Club.
T'as failli dire Jamel Comedy Club.
Et
là,
oui, je me suis pris pour un ami de Jamel. Non, du Garage Comedy Club. Et il y a 6 ans, en fait, on était un peu une troupe itinérante. On jouait dans des petits restos, au Chapiteau aussi.
Au Chapiteau, oui, c'est ça. Vous avez commencé là-bas, ouais.
C'est ça. Et le Chapiteau, on n'a pas vraiment commencé. Hein, c'était les dernières scènes.
Ouais.
Quand on était au Chapiteau, on savait qu'on disait adieu aux scènes itinérantes parce que là, on allait basculer avec le lieu qui était déjà en travaux à ce moment-là.
Donc, c'était la dernière étape avant d'avoir du dur. Vous êtes passé de la tente au camping-car, du camping-car à la maison, quoi.
Et à partir de là, on était quasiment sur un an de travaux au garage. Et après, on a eu notre petit bébé qui nous a permis de jouer. Et maintenant... On se régale, quoi.
C'est vrai, c'est magnifique d'avoir créé un lieu pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore découvert. Je vous invite à aller au Garage Comédie, entre le cours Julien et la Plaine.
Meilleur comédie club de France.
Oui, c'est vrai. Ils le disent et je pense qu'ils ont raison de le dire. tu joues dans ce lieu, mais tu es allé aussi à Paris l'année dernière, si je ne me trompe pas, plusieurs mois.
C'est ça. L'année dernière, c'était en début d'année.
Oui, début d'année.
Hiver, oui.
Ça paraît loin déjà.
Eh oui, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce que tu en as tiré de ce voyage d'études, on va dire?
Ouais, j'étais. Non, je me suis bien amusé avec les humoristes parisiens. J'étais quasiment 3 mois là-bas. J'ai un peu fait toutes les scènes qui existent, rencontré du beau monde sur Paris et aussi beaucoup joué. Parce que nous, on n'a pas forcément la capacité de jouer autant de fois qu'à Paris.
Ouais.
Faut savoir que je jouais quasiment 7 fois par jour. Hein.
Ouais. Ce qui, à Marseille, si on joue 7 fois par semaine, c'est déjà qu'on
c'est
est tout
magnifique.
En haut du...
Ah oui, non, mais c'est quasiment impossible.
Ouais, c'est presque impossible.
Ouais, jouer tous les jours à Marseille, c'est quasiment impossible. Là-bas, je jouais du lundi au dimanche, quasiment 7 fois par jour.
Ouais.
Et je commençais à jouer à partir de midi.
Ouais, ça nous paraît irréel ici.
Et oui, et je finissais ma dernière scène, c'était à minuit 45 qu'elle commençait. Et t'avais juste 3 gars qui se sont fait pointer de boîte de nuit. et c'était ça.
Et qui échoue ivre et qui revomit sur tes baskets et ça te rappelle tes scènes du début.
Bien sûr. Non, pas encore. Non.
Ça recommence.
But de l'OM, non. Non, mais c'est vrai que c'est formateur. Et après, je me dis, à Marseille, quand même, on a quand même des bons côtés. On a une qualité de public qui est différente, qui nous permet de bien travailler aussi. Eux, ils peuvent jouer beaucoup de fois, mais pas devant beaucoup de personnes. Mm. Nous, on peut jouer peu de fois, mais devant beaucoup de personnes. Et on a aussi quand même l'occasion de jouer régulièrement. Si on fait bien le taf à Marseille, ouais. On peut jouer quand même assez régulièrement, on peut bien travailler.
Bah, d'autant plus que quand on parle avec les anciens de la scène marseillaise, hein, je pense à Laurent Febvé qui était passé dans ses studios, qui nous racontait qu'à ses débuts, il allait dans des bars solo, c'est même pas, il était en équipe, et le gars lui disait c'est toi qui fais des blagues, mets-toi dans le coin là-bas, va faire des blagues, et il s'est retrouvé avec lui, personne à faire des blagues dans des bars PMU. Oui. Donc en vérité, à Marseille, on est quand même aujourd'hui chanceux d'avoir ce qu'on a. Puisque,
mais tellement.
Ça pourrait être bien, bien pire.
C'est vrai qu'il y avait une génération sombre, comme j'aime bien l'appeler. La génération sombre, c'était un peu avant la nôtre, qui n'ont rien créé de nouveau et qui ont juste souffert.
Ouais, se sont battus.
Se sont juste battus dans l'ombre contre les démons.
Mais ceux qui ont émergé, justement, c'est vraiment des super saiyans, ceux qui ont réussi à tenir à cette
époque. Ouais, voilà. Et Laurent Febvé, il en fait partie.
Ouais. Bah, on le salue, parce qu'il est un des courageux. Il a monté un très beau plateau sur Marseille. Justement, on en parle souvent ici dans ce studio. Le stand-up aujourd'hui, il a pris une grande dimension en France, notamment à Paris, mais aussi maintenant dans toutes les villes. Est-ce que toi, tu as une explication? Moi, je demande la théorie de chacun, mais est-ce que tu as une explication pour expliquer pourquoi le stand-up prend autant de place aujourd'hui en France et peut-être même dans le monde?
Je pense qu'il y a eu un bel effet de mode qui est en train un peu de disparaître. Mmh. C'était grâce et à cause des réseaux, je pense. Mmh. C'est ma théorie. Hein.
Mmh. Ouais, non, mais on écoute la théorie.
Je sens que tu me juges un peu.
Il n'y a pas de mode.
Pas de mode. Avec, comment tu parles?
Non, mais
je pense qu'il y a eu un bel effet de mode avec les vidéos virales d'improvisation sur scène, notamment Redon Bougueraba qui a vraiment rendu ça très viral à un moment et qui a montré une image du stand-up qui n'est pas la réalité et du coup qui s'essouffle. Des personnes du coup ont goûté au stand-up à ce moment-là, ont aimé, ça a donné un beau public stand-up en France et je pense que le meilleur est à venir. Là, on va garder que la pulpe. Les gens qui sont pas là grâce au réseau, qui sont là juste à la recherche d'art et qui vont être un bon public, qui vont comme dans les pays anglophones, Montréal ou même quand on va aux États-Unis, il y a des gens qui sont des geeks comiques, c'est-à-dire vraiment c'est des geeks mais de comédie. Ah, cette blague là c'est l'autre, ah tu connais ce sketch là de lui, en fait ces gens là sont vraiment des geeks mais de la comédie et du stand-up, et je pense que on va s'approcher de ça au fur et à mesure avec vraiment un public engagé et
qui connaîtra parfaitement chacun des artistes.
Voilà, et qui sait quand il doit rigoler. Quoi.
Ouais. On a hâte d'avoir ce grand public éduqué que tu nous promets, justement, en parlant d'avenir. Ce spectacle spécial, moi, j'ai toujours plaisir à imaginer qu'on réécoutera donc, ces interviews dans quelques années. Si tu peux imaginer le plus beau parcours possible pour spécial, le spectacle, bien sûr. Et pour toi, dans 10 ans, ça serait quoi exactement?
Dans 10 ans, je pense que je jouerai plus spécial. Déjà.
On te le souhaite.
Ouais, je pense que je jouerai plus le spectacle spécial.
Ça sera spécial 3.
Spécial 3. 3 fois spécial. 3 fois plus de spécialité.
Ouais, ça donne envie déjà.
Ouais. Non, je pense que dans 10 ans, si tout se passe bien et que mes rêves se réalisent, je ferai des belles salles. Une belle tournée de toute la France, un peu de. Tout en francophonie, ça serait magnifique.
Donc Québec, Belgique, Afrique.
Les Belges, j'adore. Ah oui, l'Afrique aussi.
L'Afrique,
j'adore.
Le pays, bien sûr.
L'Afrique, le grand pays. Le grand... C'est un grand pays, l'Afrique.
Non, mais c'est vrai qu'on l'imagine pas, mais ça va peut-être devenir une scène parce que faut aujourd'hui les scènes francophones, bon, c'est France, Québec et Belgique, mais
Suisse
ouais, bon, Suisse, on s'en fiche, mais, mais c'est vrai qu'il y a la francophonie aujourd'hui au Congo, en Côte d'Ivoire et
mais
tout. Donc peut-être ça sera aussi des nouvelles
Algérie,
ouais.
C'est juste que les humoristes n'auront pas leur visa.
Oui, oui.
Pour y aller,
qui devront sortir avec les menottes de scène, mais ça sera une autre aventure.
Voilà, c'est ça.
Justement. Est-ce que tu as déjà joué, toi, à l'étranger?
J'ai joué en Belgique. Mm-hmm. Ah, je me suis régalé. Ouais. Les Belges, j'adore.
Oui, oui.
En fait, les Belges, c'est des sudistes. Mm. Et sans le soleil. Mais je te jure que c'est des sudistes.
Ils ont quoi en
ils sont chaleureux. Ils sont vraiment bienveillants, gentils. S'ils avaient l'accent marseillais, franchement, c'était à la maison. Mais c'est la même chose.
Ok.
Avec 2-3 bières dans le nez. Mais ouais. C'est la même chose. C'est la même chose.
Ouais, donc c'est vraiment, il y a cette similarité-là.
Ouais, le public ultra chaud, vraiment à l'écoute, et ils viennent passer un bon moment.
Est-ce que tu as prévu d'aller jouer spécial en Belgique?
Pas encore. Mais s'il y a des Belges, j'arrive. Hein.
Ouais. Bon, mais du coup, alors Ryan, comment on fait pour te retrouver en spectacle? Comment on fait pour venir voir spécial? Déjà, où c'est qu'on te retrouve?
Bah, moi, c'est sur les réseaux. Mm-hmm. Moi, c'est sur Instagram, sur le réseau sur lequel je poste même pas mal de vidéos.
Ouais, régulièrement, là, maintenant.
C'est ça. Ryan Zerouni. Mm-hmm. Donc, Ryan, moi, c'est R-A-Y-A-N-E et Zerouni, Z-E-R-H. O-U-N-I.
Ouais, bah on l'écrira sur le podcast aussi pour c'est ceux ça. Qui veulent le retrouver, donc il y aura ton nom. Donc c'est sur les réseaux, donc Instagram, et c'est aussi sur scène, donc prochainement au garage le 5 octobre.
Le 5 octobre, ouais. Dimanche 5 octobre à 21h au Garage Comedy Club.
Et ensuite, tu as prévu de le rejouer au garage ou de le jouer ailleurs?
C'est ça, je pense le jouer au garage assez régulièrement.
Ok.
Les prochaines dates, ça je les mettrai sur les réseaux au fur et à mesure. J'aime bien annoncer les dates au fur et à mesure pour que les gens se disent « Ah, il faut y aller maintenant, c'est maintenant ou jamais. »
Ouais, l'impression de rareté.
Voilà.
Encore un boss du marketing, encore une fois.
Alors que non, les gens se disent juste « Ce sera jamais.
» Il y en a une seule, c'est tout, voilà.
Voilà, et on ne va pas y aller. Il y en a qu'une seule et c'est non.
Ouais. Bon, on ne s'inquiète pas trop pour la première, normalement, tu as toujours du monde. Et en tout cas, on te souhaite une très belle scène pour Spécial, cette première de Spécial, qui n'est pas la première en vérité, puisque tu l'as déjà joué avant de... L'été, non?
Je l'ai joué en janvier, juste avant de partir à Paris.
Et alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que...
C'était super.
Ouais.
C'était super et c'est vraiment ce que je disais au début, hein, cette recherche d'être pendant une heure sur scène et de pouvoir aborder tous les sujets que je veux et prendre mon temps. Je me suis régalé.
Et ça n'a pas été trop dur après de revenir sur des plateaux en 10 minutes?
Et 10 minutes après, tu dois vite t'expliquer en 10 minutes sur ce que
on
tu
veux. On n'a pas le temps de parler, voilà ce
et
que
voilà,
je veux vous dire.
C'est ça.
Ouais, c'était une belle première et c'était un bon moment.
Ouais.
Mais écoute, on te souhaite une belle deuxième, troisième?
Là, c'est la deuxième.
Ok.
Et on espère qu'elle sera complète aussi.
Ouais,
d'ailleurs, j'ai fait des complets, donc il faut...
100% de complet pour le moment.
100% de complet, j'ai fait des formats... de 30 minutes, 30 minutes avec d'autres artistes.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Auparavant, avec Pierre Garrig, avec Dudley aussi. Avec...
Ouais. Dudley Gossec, Pierre Garrig, oui, avec qui t'as performé sur scène, donc à l'Ardu, au garage.
C'est ça.
Et on leur souhaite aussi de remplir des belles salles prochainement. Pour terminer, Ryan, simplement, qu'est-ce qu'on te souhaite en partant?
La santé, déjà, c'est très important. Et bien sûr, de pouvoir pratiquer mon art un peu partout,
pouvoir
faire rire un maximum de personnes.
Écoute, on te souhaite ça, alors d'aller remplir les salles de toute la France et d'ailleurs en bonne santé surtout.
Ouais.
Et longue vie à Spécial et bon courage à toi.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.